Le journal présenté par Olivier Zano.
Bonjour, les Suisses enfilent les médailles comme des perles aux Jeux Olympiques de Tokyo. Après le triplé en VTT hier, Marlène Reusser s'est parée d'argent dans le contre-la-montre aujourd'hui. La bernoise de 30 ans offre ainsi une 6e médaille à la Suisse dans ses joutes. Seule la néerlandaise Annemiek van Vleuten l'a devancée sur le très exigeant parcours de 22,1 km au pied du Mont Fuji. Marlène Reusser s'est arrachée en fin de parcours pour grimper sur le podium. Les précisions de notre envoyée spéciale au JO, Émilie Momenthaler.
Déjà en argent lors du chrono des Mondiaux 2020 à Imola, Marlène Reusser a confirmé son potentiel aujourd'hui. Elle ne pointait qu'en 5e position à 7 km de l'arrivée, mais elle a réussi un finish étourdissant malgré des problèmes de casque. La bernoise termine à 56 secondes de la néerlandaise Annemiek van Vleuten qui a survolé les débats 3 jours après avoir terminé 2e de la course en ligne. Sa compatriote batave Anna van der Breggen complète le podium. Marlène Reusser est une révélation tardive dans le monde de la petite reine. Médecin de profession, elle n'a pris sa licence qu'en 2017. Elle n'avait donc encore jamais disputé une course de vélo quand les derniers Jeux se tenaient il y a 5 ans à Rio.
Avec cette 2e place lors de ce contre-la-montre cycliste, Marlène Reusser offre donc une 6e médaille à la délégation suisse dans ces Jeux Olympiques de Tokyo. Le Turgovien Stefan Küng disputera lui le contre-la-montre masculin ce matin. En aviron, c'est la déception dans le camp suisse. Barnabé Delarz et Roman Rössli ont manqué leur affaire en finale du 2 de couple cette nuit. Le Vaudois et le Lucernois visaient ouvertement le podium. Ils ont pris la 5e place d'une course remportée par les favoris français Hugo Boucheron et Mathieu Androdias. Ils ont échoué à plus de 5 secondes du bronze. Et puis, cette ultime défaite pour Sabrina Jacquet en badminton. La Neuchâteloise de 34 ans n'a pas pu éviter la défaite pour le dernier match de sa carrière. La médaillée de bronze des Européens 2017 s'est incliné pour la 3e fois en 3 rencontres disputées dans le tournoi. On quitte les JO, mais on reste dans le monde du sport. Cette fois, c'est acté. Vladimir Petkovic ne sera plus l'entraîneur de l'équipe suisse de football. Le technicien s'est engagé pour 3 ans auprès des Girondins de Bordeaux. Thomas Nagy.
La rumeur courait depuis quelques jours, c'est désormais officiel. L'information a été confirmée hier soir par les Girondins de Bordeaux et par l'Association Suisse de Football. Vladimir Petkovic était encore sous contrat jusqu'à fin 2022 avec l'ASF. Elle a donc accepté de le libérer avec un peu d'avance. Mais les modalités de l'accord n'ont pas été dévoilées. Selon le quotidien français Sud-Ouest, l'ASF réclamait plus de 2 millions de francs pour laisser partir son sélectionneur. Vladimir Petkovic était en poste depuis le 1er juillet 2014. Il a mené la Nati à l'Euro 2016 jusqu'au 8e de finale, tout comme à la Coupe du Monde 2018. Il a récemment atteint les quarts de finale lors de l'Euro cette année.
Cette arrivée en Ligue 1 constitue un retour au football de club pour Vladimir Petkovic. Son dernier poste avant la Suisse l'avait mené à la Lazio de Rome entre 2012 et 2013. Un habitant du littoral était aux premières loges lors des inondations des semaines dernières, le castor. Littéralement les pieds dans l'eau, le rongeur a une certaine incidence sur le niveau des rivières. Ces barrages créent des zones tampons et retardent le déversement des eaux en aval. Ces constructions en bois peuvent également provoquer un surplus de débris flottants si elles sont emportées par les crues. Le castor semble toutefois avoir eu une influence marginale sur la montée des eaux. Son habitat naturel a quant à lui été touché. Certaines huttes ont été inondées le long du littoral. Le rongeur n'est toutefois pas en danger, selon Joanne Félix, collaboratrice scientifique au service neuchâtelois de la faune, des forêts et de la nature.
On a une vision assez peu interventionniste par rapport au castor. On pense que finalement c'est son milieu, il vit dans l'eau et il peut aussi s'adapter lui-même s'il voit que son terrier est régulièrement inondé, il va le placer autrement. Après, il y a des sites où on sait que la situation peut être problématique par rapport aux inondations. Ils sont déjà connus, ils sont suivis. Et donc, ceux-là, effectivement, si on voit qu'il y a de plus en plus d'inondations, on va faire un suivi plus régulier. Mais on fait ce suivi pour des questions surtout de sécurité et pas pour protéger le castor qui se débrouille très bien tout seul.
Des propos recueillis par Léo Tichelli. On reste sur les lacs et sur celui de Bienne en particulier. Le Mobicat fête ses 20 ans. 20e anniversaire sous le signe d'innovation en énergie solaire. Le Mobicat n'est plus qu'un simple bateau naviguant grâce à l'énergie solaire. Il devient une véritable centrale électrique mobile. Il s'équipe en effet de nouveaux panneaux photovoltaïques et de nouvelles batteries en lithium. La particularité, c'est que sur la quantité d'énergie solaire produite, le Mobicat n'en utilise que 15%. Le reste est ensuite transférée dans le réseau électrique biennois. Une telle innovation est-elle la solution pour avoir une énergie plus verte dans les bateaux et dans nos circuits électriques? Thomas Mulletaler, directeur d'exploitation de la navigation Lac de Bienne.
C'est un premier pas. Il faut trouver d'autres moyens, d'autres solutions. On doit produire de l'énergie pour nous-mêmes, décentraliser, non pas des grandes centrales parce qu'on n'a pas la place et puis on a beaucoup trop de gens qui sont contre quelques sortes de centrales. Puis là, dans la décentralisation, c'est le futur.
Dans tous les cas, le Mobicat ne cesse d'étonner par son innovation et sa durée dans le temps. Ce bateau, d'abord amarré pour exposer aux deux, n'a pas cessé depuis 20 ans de challenger l'énergie solaire et sa production. Un mot sur l'actualité étrangère. En Australie, le confinement de la ville de Sydney est prolongé jusqu'à fin août. Il devait prendre fin ce vendredi après 5 semaines. Mais les contaminations sont toujours plus nombreuses et les autorités évoquent un taux de vaccination faible, 13% dans tout le pays. À Melbourne, en revanche, le confinement a pu être levé cette nuit après 2 semaines de fermeture. Et puis on reparle des tueries dans des salons de massage asiatique à Atlanta et dans sa banlieue. C'était en mars dernier. L'auteur a été condamné hier à la rétention à perpétuité pour le premier volet de son attaque. Il reste passible de la peine capitale pour la suite de sa virée meurtrière qui avait fait 8 victimes. Le jeune homme, un fervent chrétien, adepte des armes, a toujours reconnu les faits, mais il a affirmé aux enquêteurs ne pas avoir de mobile raciste. Il se présente comme un obsédé sexuel, soucieux de supprimer une tentation. Votre prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 7h30.
Et nous, avant d'attaquer cette deuxième heure de matinale, on fait un point du côté du ciel. Ce matin, le temps restera nuageux en début de matinée avec quelques averses, mais cela va en s'améliorant. Les premières éclaircies devraient rayonner avant la mi-journée. Et dans l'après-midi, le temps restera assez ensoleillé, généralement sec, mis à part de rares petites précipitations, encore possibles assez localement. Les bancs nuageux resteront tout de même plus nombreux sur le Jura. Et au niveau des températures, elles seront de saison et l'ambiance sera lourde. Il fera jusqu'à 25 degrés à la Neuville, 24 à Bienne, 23 à Moutier et 21 degrés à Tavannes, Tramelan et Saint-Imier. Demain, on devrait vivre un temps changeant entre nuages le matin et belles éclaircies l'après-midi. Le temps restera sec.